C'est une étude sortie il y a 15 jours et elle a fait l'événement médiatique. Elle est mise à jour tous les 15 ans et permet de faire le point sur nos pratiques, nos ressentis et renseigne in fine sur les évolutions de notre société. Une lorgnette alors entre la sortie de cette étude et la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu ce 1er décembre avait donc du sens ici à Studio Zef. Nous allons parler sexualité pendant une heure. Bienvenue à tous et à toutes dans la lorgnette. Et bonjour à mes invités, donc aujourd'hui Geoffroy Leca et Élodie Davaillon.
Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chef de service au centre de santé sexuelle de Blois qui dépend du conseil départemental, c'est ça ?
Exactement, qui est en partie financé par le conseil départemental mais aussi par le centre hospitalier et même la caisse d'assurance maladie bien sûr. Et donc moi je suis médecin là-bas depuis 5 ans et responsable depuis peu.
Très bien, et puis Élodie, donc vous êtes secrétaire du centre de santé sexuelle et du centre d'IVG. Alors est-ce qu'on peut d'abord présenter donc le centre de santé sexuelle ?
Alors oui, le centre de santé sexuelle, donc l'appellation a changé récemment, avant ça pouvait porter un autre acronyme mais qui était beaucoup moins explicite, ça a changé récemment et donc nous on est à la fois centre de santé sexuelle, donc les missions du centre de santé sexuelle apparaissent assez, elles peuvent être assez larges, hein, c'est-à-dire ça peut aller du suivi de la contraception, ça peut être parfois du suivi de grossesse chez certaines dames et également aussi du conseil conjugal, hein, on a des conseillères conjugales dans le service, ça peut être aussi, il y a aussi du dépistage, hein, puisque là on va sûrement en parler dans l'émission,
hein.
Malgré qu'il y ait aussi le CEGIT qui est vraiment spécialisé là-dedans, mais ça fait partie de nos missions. Et on est aussi, on a une double casquette, on est aussi un centre d'IVG. Donc là, c'est assez simple, hein, comme son nom l'indique, on est un centre qui pratique les IVG à la fois médicamenteuses et par aspiration.
On avait, pour être tout à fait complet au niveau de nos auditeurs et nos auditrices, on avait lancé l'invitation au CEGID, hein, qui n'a pas pu se déplacer. Est-ce qu'on peut les présenter, puisque leurs missions sont, une partie de leurs missions sont communes avec les vôtres, en tout cas complémentaires à minima.
Eh ben, je peux dire un petit mot, mais je pense qu'Élodie complétera. Le CEGID, c'est pareil, porter un ancien nom avant, mais pour le définir assez simplement, c'est vraiment le centre de dépistage essentiellement pour les maladies sexuellement transmissibles.
Des majeurs.
Voilà, c'est pour ça que je savais que j'aurais des précisions de ma collègue et que j'allais oublier un petit détail. Et parce que voilà, nous, on est complémentaires puisque nous, les mineurs, c'est ce qui nous concerne. Mm-hmm. Et donc, ils ont un grand rôle là-dedans, essentiellement, voilà, le dépistage, la prévention, parce que ça, je pense que si les conseillères étaient là, elles me taperaient sur l'épaule. La prévention est vraiment très importante pour nous et à juste titre, et je pense qu'on va en parler.
Oui, oui, absolument. Donc en fait, il y a une mission d'information, de prévention, d'accueil, en gros, hein, de vos deux centres avec des, voilà, des publics et des missions différentes, mais aussi de soins. Et j'imagine que la complémentarité des structures vous permet d'orienter les personnes qui viendraient, qui se seraient éventuellement trompé vers les autres structures dans lesquelles vous êtes impliqué.
Techniquement, les gens qui viennent ou qui appellent pour des dépistages, s'ils sont majeurs, je les envoie directement au CEGID.
On vous trouve où ? Donc, j'ai vu qu'il y avait au centre hospitalier de Blois, mais vous avez aussi des centres d'accueil à Romorantin et à Vendôme, on peut le préciser aussi.
Exactement. Donc c'est sûr qu'en termes de proportion, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est sûr que le centre hospitalier de Blois est un peu le bateau amiral en termes de nombre. Mm-hmm. Mais il y a aussi une antenne à Romorantin. C'est-à-dire on peut très bien réaliser il y a des IVG qui sont réalisés à Romorantin. À Romorantin, c'est aussi un centre de santé sexuelle, donc il fait aussi
de l'accueil, de
la contraception, et puis de l'accompagnement des femmes, enfin, mm-hmm. et des hommes. Et il y a aussi une antenne encore à Vendôme. Voilà, pareil, c'est une antenne.
Au centre hospitalier aussi,
oui.
J'imagine.
Oui, tous les deux à l'hôpital. Okay. C'est l'hôpital qui gère chaque hôpital.
De sous-préfecture gère les centres de santé sexuelle,
oui.
et d'IVG. Ok.
Et on a également, c'est important parce qu'on n'en a pas beaucoup encore sur le Loir-et-Cher, mais on a des médecins généralistes et des sages-femmes libérales qui pratiquent l'IVG également. Sous convention. Donc, il y en a quelques-uns éparpillés un peu sur le département. On aimerait en avoir un petit peu plus. Mais bon, c'est déjà...
Mais ils existent et ils sont là. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu et puis après on va rentrer dans le cœur de notre sujet, en tout cas de la raison pour laquelle je vous ai invité. On a parlé du centre d'IVG ici à Blois. Est-ce que vous avez des données, des informations à partager sur le fonctionnement, le public accueilli, les tranches d'âge, enfin voilà, est-ce qu'on peut parler un peu du centre d'IVG ici?
Alors, concernant le public accueilli, on va avoir tout âge, mm-hmm. Toute ethnie, toute condition et niveau socio-économique.
Ouais.
Là, il y a c'est tout le monde. Il n'y a pas plus une proportion qu'une autre. Voilà pour nous. Ça augmente tous les ans.
On va y revenir.
Voilà. Mais voilà, les dames appellent le service ou viennent en spontané, hein, mm-hmm. ça arrive aussi, orientées parfois par un médecin généraliste ou même le médecin appelle une sage-femme, enfin une école, mm-hmm. un collège, un lycée.
Bien sûr.
Parce que tout à l'heure, je voulais rebondir, j'avais oublié de dire, pareil, il y a certains, un rôle d'accueil, comme vous disiez, mais aussi normalement dans l'émission de ces centres de santé sexuelle, en particulier les conseillères conjugales et familiales, ont normalement des missions d'aller vers, c'est-à-dire d'aller faire de l'éducation dans les collèges, dans d'autres structures éducatives. Et quel que soit l'âge, on élargit de plus en plus sur les âges. Et d'ailleurs, c'est dans les missions au niveau national et départemental, ils veulent qu'on aille justement, qu'on amplifie ces missions d'aller vers, c'est-à-dire qu'on fasse plus de prévention et d'éducation justement pour essayer de, comme d'habitude, diminuer les incidents auxquels on fait face par la suite.
On va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier sujet. Il y en aura deux, mais celui-ci sera le premier. On ne va pas y passer forcément trop de temps parce qu'on a déjà eu l'occasion il y a 2 ans de faire une émission sur le sida. Mais donc nous sommes à quelques jours du 1er décembre, qui est la journée internationale de lutte contre le sida. Le SIDAction va se déployer dans les médias dans les jours qui viennent. Je voulais qu'on refasse un point sur l'épidémie. J'ai lu en préparant l'émission des noms barbares de médicaments qui étaient tout à fait miraculeux, presque, si j'en croyais certains articles. Donc je voulais qu'on refasse un point sur ça et puis sur les IST de manière générale. Donc où en est l'épidémie de sida au moment où on se parle là, cette semaine, ce jour-ci?
Alors sur cette partie, je pense qu'on va être moins calé pour vous répondre okay. que aurait pu l'être le Cégide,
non, ouais, okay.
qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est ressorti le plus de l'étude dont vous parliez tout à l'heure de l'INSERM, c'est que malheureusement, les protections par préservatif, visiblement, l'utilisation du préservatif est en baisse constante, en mm-hmm. gros, depuis 10-20 ans, pour plusieurs raisons, mais très probablement parce que dans les années 90, il y a eu des grosses campagnes de pub et d'éducation là-dessus, et que là, on sent que ça commence à manquer et que probablement il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Après, ça va avec, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens contaminés en conséquence avec la moins bonne utilisation du préservatif. Plus de gens contaminés, donc nous, on en dépiste plus, mais aussi, il y a le problème aussi des gens qui ne sont pas dépistés et qui se baladent avec porteurs du VIH sans savoir qu'ils sont porteurs. Mm-hmm. Et donc, déjà, c'est dangereux, bien évidemment, pour eux, mais c'est bien évidemment dommage pour leur partenaire éventuel. Et donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faudrait refaire de la prévention là-dessus. Et après, concernant les médicaments, oui, il y a eu des progrès. Pareil, on n'est pas assez compétent là-dedans.
J'ai entendu parler du lenacapavir. Ça vous parle? Pas vraiment.
Pas trop.
Pas trop.
Pas trop.
Vous
mais
pas trop en
par
lien
contre,
avec,
tout ce qui est, c'est sûr que c'est encore.
On parle d'une solution miracle, hein, efficacité testée à 100% sur les femmes et à 96% sur les hommes pour la prévention et la non-contamination des partenaires sur du VIH.
Je ne connais pas exactement par cœur les noms de molécules, ouais. mais il est sûr qu'il y a des grandes évolutions récentes, que ça soit au niveau des molécules, mais aussi du type d'utilisation, à savoir, je pense que vous allez aussi nous parler parler de la PrEP, hein, c'est-à-dire de faire des traitements préventifs chez les gens qui sont à très haut risque en fait, de contracter une maladie sexuellement transmissible comme le sida. Et donc cette PrEP, elle est destinée aux personnes qui le demandent et qui font partie des personnes à très haut risque. Hein. Donc je n'ai pas la liste sous les yeux, mais essentiellement des HSH, hein, les homosexuels masculins, qui ont eux-mêmes se disent avoir des rapports multiples et sont donc à risque. Ça, c'est la population la plus évidente. Après, il y a d'autres populations, mais que je connais moins, puisque je ne suis pas du CGIT.
Très bien. Je ne vais pas vous embêter, vous mettre en difficulté plus amont sur ce sujet, mais en tout cas, voilà, il existe des choses, et effectivement, les derniers articles notaient une progression de l'épidémie depuis 3 ans, avec notamment, et on va y revenir, cette baisse de l'utilisation des moyens de contraception, notamment du préservatif. On rappelle qu'il est gratuit pour les moins de 26 ans. C'était un plan du dernier gouvernement, d'Emmanuel Macron, en tout cas de la présidence d'Emmanuel Macron, de mettre en place les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans. On va donc aborder le sujet pour lequel je vous ai lancé l'invitation, qui est que tous les 15 ans, donc, revient cette grande étude sur la sexualité des Français. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était son nom il y a 15 ans, en tout cas, c'est son nom maintenant. On parle de contexte des sexualités françaises, donc en fait, entre la sexualité et les sexualités, j'ai eu l'impression qu'il y avait un glissement sémantique qui conduit peut-être vers plus d'inclusivité et d'égalité. On va avoir le temps d'y revenir dans cette émission. Un grand panel de 31 518 personnes exactement, c'est très largement plus que des grandes études nationales qui peuvent être menées. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que vous inspire les grandes données qui sont sorties de cette étude, Geoffroy?
Donc les données, donc ces études, elles sont diligentées par certaines équipes de l'Inserm,
tout à fait,
qui sont historiquement ont été, il y a des grands noms de l'Inserm qui ont participé depuis, c'est depuis 92, je crois, la première fois ils ont fait ces études là, et entre autres Nathalie Bajos.
92, 2006 et donc 2023.
Et donc, en fait, cette étude, comme d'autres études un peu parallèles sur d'autres sujets, un peu sur le nombre d'IVG, sur l'évolution de la contraception, donc là, ils commencent un peu à le rassembler dans cette grande étude. Mais en fait, c'est des personnes qu'on connaît bien, qui sont des sociologues très sérieux, et de ces équipes. Et si vous voulez, depuis les années, en fait, là, ce qu'on voit aujourd'hui dans les résultats, c'est des résultats qui se confirment et qui sont observés depuis les années 2005 et qui ont été progressivement amplifiés suite à la crise des pilules, en particulier pour l'évolution du paysage contraceptif français, suite à cette crise des pilules en 2012. Donc je rappelle pour les gens qui sont pas trop au courant que, en fait, la crise des pilules, ça veut dire quoi? Enfin, la crise des pilules en France, ça veut dire qu'en France, en 2012, ça a été médiatisé à partir de 2012, mais que les médecins normalement étaient censés le savoir depuis une quinzaine d'années, mais il y avait certaines pilules sur le marché qui était prescrite larga manu et qui avait quand même des risques thromboemboliques, des risques de complications qui étaient non négligeables. Et quand les Françaises ont appris ça, bien sûr, elles se sont encore plus détachées de la pilule qu'elles avaient déjà commencé à le faire d'ailleurs à partir de 2005. Et là, ça semble s'amplifier dans cette étude, parce que là, on en arrive... le stérilet, par exemple, vient de dépasser pour certaines classes d'âge la pilule, et de manière globale, d'ailleurs. Donc, le stérilet est maintenant, de manière globale, la contraception la plus utilisée devant la pilule, ce qui paraissait complètement
inenvisageable il y a 15 ans, oui.
Il y a encore 15 ou 20 ans. Les sociologues commençaient à le voir arriver, les auteurs de ces études, mais...
Les sociologues l'ont vu avant les médecins, peut-être?
Peut-être
pas, enfin, ou en même temps, en tout cas, les sociologues ont confirmé ce que les médecins, j'imagine, entrevoyaient.
Ces équipes de sociologues, elles sont clairement sur cette évolution, c'est elles qui nous guident, hein, elles sont en avance sur nous sur cette histoire-là. Après, nous, on va en parler avec nos stats, hein, parce que j'ai amené ma statisticienne en chef.
Superbe.
Mais... tout ça, c'est comme toute étude scientifique, bien sûr, c'est qu'il y a des choses intéressantes au niveau national qui sont à voir aussi en fonction des classes d'âge, mais bien sûr, en fonction... Nous, on est un centre d'IVG de contraception, donc déjà, on n'a pas exactement les mêmes populations, donc on n'a pas les mêmes résultats. Comme exemple, j'ai cité l'implant, qui est complètement confidentiel. Hein, comme moyen de contraception, j'ai cru lire, en gros, c'est utilisé par 4% des femmes. Nous, on en parlait tout à l'heure, des implants...
C'est notre plus grosse activité.
On en pose. Hein.
Okay. On en pose, oui.
Voilà. Mmh. Mais le biais, c'est que nous, on est un centre qui fait que ça. Et donc, étant donné qu'on sait les poser et les retirer, c'est sûr que on les vend plus facilement aux dames, d'une certaine manière, en termes de conviction, quoi. Et en plus, on les pose. Donc, c'est tout à fait logique.
Pour revenir sur cette idée de contraception, et puis on aura l'occasion sur la contraception d'y revenir plusieurs temps dans l'émission, cette idée de pour les femmes, avec ce dépassement du stérilet par rapport à l'utilisation de la pilule, de moins se contraindre au traitement hormonal qui fait dérailler le corps, etc. Et elles ont vu, les jeunes femmes ont vu peut-être leur mère, leur grande sœur, des proches être plus contraintes par ce traitement.
Il y a plusieurs.
Je ferai puis et je dis après.
Il y a plusieurs raisons. Hein. Moi, je vais dire celles qui me viennent en premier. Et je pense qu'Elodie la complétera parce qu'elle a les appels des dames qui veulent des stérilets en cuivre. Il y a déjà cette histoire des crises des pilules où, pour simplifier, la population a vu ça comme une trahison, je pense, de la part des médecins, qu'on leur prescrive des pilules depuis toujours sans trop leur dire qu'elles avaient quand même, certes, un risque maîtrisé, mais un risque de complications sur les hormones en général, enfin, sur ce type de contraception hormonale. Et y a aussi le fait qu'elles se sont rendues compte que les stérilets pouvaient y avoir accès, et contrairement à ce que des médecins continuent à leur dire ou leur ont dit très longtemps, qu'un stérilet, ça peut se poser ici chez une femme qui n'a pas eu d'enfant et qu'il y a des formes short. Et donc tout ça, ça s'est médiatisé.
On en revient aussi à un problème d'éducation à la fois des plus jeunes, hein, d'éducation sexuelle autour de la contraception, mais aussi peut-être de sensibilisation des personnels soignants, des vieux médecins qui ont longtemps pratiqué et pour qui la pilule était juste le seul moyen, et de ne pas penser au stérilet, de ne pas conseiller le stérilet à certaines femmes qui auraient pu être plus... plus bénéficiaire.
C'est une idée qui est encore là. Ouais. Qui est encore là. Le stérilet, c'est que pour les femmes qui ont des enfants. Et non, on en pose aux mineurs. On en pose. Il y a moins la contrainte de la pilule qu'il faut prendre tous les jours à heure fixe. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de nos jeunes. Moi, le stérilet, il est posé et je suis tranquille.
On n'y pense plus.
Bon, le stérilet reste aussi hormonal. Alors ça, c'est un autre débat où l'hormone est encore... des dames ne veulent rien d'hormonal. Donc on a aussi le stérilet cuivre, on en pose aussi...
Et en plus, côté médical, quand on est au fait du sujet... Nous, on est heureux aussi. Hein. On préfère que les dames aient un stérilet, parce que moi, je sais qu'en termes de risque, parce que c'est comme si je prescrivais un médicament, que ce soit un stérilet ou une pilule, je sais qu'en termes de risque médicaux induits, moi, j'induis pas de risque avec pas grand risque avec un stérilet, quel qu'il soit.
On va faire une pause musicale et on va revenir pour continuer à évoquer la contraception, la sexualité, les sexualités, du coup, pour reprendre le terme précis de l'étude qui vient donc de paraître. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing.
So good when I did it with my penis. A girl let me do it, it literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from, I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Oh, hey, didn't see you there, guess what I just did. Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nice of any girl ever. Now sing.
I just had sex.
Doesn't really make sense.
it. I ain't one to argue with a good thing. She could be my wife. That good? The best 30 seconds of my life. I'm so humbled by a girl's ability to let me do it. Cause honestly, I'd have sex with a pile of manure. With that in mind, a soft, nice smelling girl's better. But she let me wear my chain and my turtleneck sweater.
So this one's dedicated to them.
Been a racist.
Doesn't matter, had sex.
She put a bag on my head.
Still count. I just had sex. And my dreams came true.
Dreams came true.
So if you had sex in the last 30 minutes, then you're qualified to sing with me. I just had sex.
Everybody sing.
And it felt so good.
We all had sex.
So good. I wanna let me put my penis inside of her.
I wanna tell the world.
Le groupe de hip-hop parodique, en tout cas humoristique, The Lonely Island, a just had sex, qu'on peut traduire littéralement par « Je viens juste de faire l'amour » et c'était trop bien si je dois traduire le refrain. Ce qui me permet d'introduire justement la notion de plaisir dans cette, et notamment dans l'étude qui a été donc publiée par l'INSERM et l'ANRS, pardon, et Santé publique France, donc il y a 15 jours, qui je trouvais que c'était intéressant d'introduire cette notion du plaisir. Et c'était aussi le titre et la une de Libé du 14 novembre. Les Français font moins l'amour, mais le font mieux. Cette formule m'a beaucoup intéressé. L'ensemble des résultats attestent d'une plus grande égalité entre les sexes et les sexualités, malgré l'accentuation des violences, signe Nathalie Bajos, que vous citiez tout à l'heure, donc qui est directrice de recherche de l'INSERM et qui a co-dirigé l'enquête. Voilà, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur cette notion de plaisir. Et effectivement, on a vu des progressions dans certaines pratiques, dans certaines variété de pratiques sexuelles qui tendaient vers justement une plus juste répartition du plaisir. Vous pouvez confirmer, développer ?
J'ai découvert ça aussi par voie de presse, et c'est sûr que ça, c'est ce qui fait un petit peu le buzz de cette étude aussi. Et en plus, même avant la sortie de cette étude, ils en parlaient déjà sur certains médias, mmh. qu'il y avait des catégories, des tranches de jeunes en particulier, oui. qui déclaraient ne pas...
forcément avoir fait l'amour dans les 12 derniers mois,
voilà,
par exemple.
Voilà, et que c'était une baisse considérable, et qu'ils n'en souffraient pas, et qu'ils ne ressentaient pas forcément le besoin. On peut, et par contre, en contrepartie, y a plus de liberté, en particulier plus d'égalité entre les hommes et les femmes ou les minorités sur les pratiques sexuelles, sur le plaisir aussi que les gens y prennent. Et c'est surtout la bonne nouvelle, c'est surtout cette égalité qui n'est peut-être pas encore atteinte, mais en tout cas qui...
Une tendance vers l'égalité.
Un certain équilibre et une tendance vers l'égalité dans le plaisir que les partenaires sexuels prennent. Voilà, moi je pense que c'est surtout ça. Et la grande chose aussi, je ne crois pas qu'ils en aient parlé parce que ce n'est pas leur sujet, mais nous, ce qui nous importe surtout, que les gens prennent du plaisir lors de leur relation sexuelle est essentiel. Et c'est surtout, nous, ce qui nous concerne dans notre service, c'est le consentement.
Bien sûr, j'allais y venir évidemment, mais les deux sont un peu liés. Hein. Voilà, quand on parle de plaisir, on ne parle évidemment pas de violence. Donc du coup, effectivement, on consent à partager un moment de communion, de cohésion entre deux ou plusieurs partenaires, si on veut aller par là. Donc effectivement, vous, c'est des choses que vous recevez et plutôt peut-être les jeunes femmes qui sont plus victimes évidemment de violences sexuelles au quotidien. C'est quelque chose qui a commencé à imprégner dans les discours des femmes que vous recevez, de consentir, d'être plus dans le consentement, dans le plaisir, dans l'égalité dans la pratique sexuelle.
Alors ça aurait été plus une conseillère conjugale et familiale qui aurait pu vous répondre à cette question-là, mais maintenant la question des violences, effectivement, elle est abordée, et que ça soit par la conseillère, par le médecin, et voilà, ça ressort, oui, ça... effectivement, ça ressort chez les jeunes.
Il y a une vraie tendance vers ça, oui. J'imagine, ouais.
Oui.
Et même chez, alors je parlais des jeunes femmes qui sont donc plus victimes de violences au quotidien, de violences sexuelles, mais les jeunes hommes aussi, j'imagine, s'ouvrent aussi à la notion de consentement.
On a très peu d'hommes qui viennent dans le service, voilà. Très très peu. S'ils viennent, c'est pour un dépistage.
Plutôt,
uniquement.
Okay.
Ouais.
Ou accompagner leur conjointe, dans le cas d'une IVG. Mais par contre, là, encore une fois, il faudra refaire une émission avec le CEGID, parce qu'eux accueillent, pense, pas mal d'hommes. Mm-hmm. Ils auraient pu vous répondre là-dessus, mais et bien entendu, ils le disent dans l'étude, qu'on ne les oublie pas, on parle souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes, bien sûr, victimes de violence, que ce soit violence simple ou sexuelle. Mais en tout cas, nous, encore une fois, pour utiliser un petit peu, on n'a pas de stats là-dessus, mais c'est sûr que nous, on est biaisés. On a l'impression que tout le monde vit des violences sexuelles, étant donné qu'on est dans un centre qui accueille des femmes. Mmh. Donc, en vue d'IVG, et en fait, l'IVG, c'est un facteur de risque. Je ne dis pas que toutes les femmes qui font une IVG ont des violences vivent des violences sexuelles, mais bien sûr, dans ces femmes-là, y en a plus souvent qui sont victimes de violences sexuelles. Mmh. Donc c'est sûr que nous, on est beaucoup confrontés à ça. Et donc ces études, elles sont tout à fait encourageantes et rassurantes pour nous, parce que nous, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter, puisque nous, on en voit toute la journée.
Chaque semaine, La Lorgnette vous fait une recommandation, un podcast, un documentaire, une émission qui revient sur la thématique abordée. Cette semaine, je vous propose un extrait de la série documentaire Les Pieds sur Terre de France Culture. Le documentaire s'appelle « Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités », réalisé par Pauline Chanu, et on parle de première fois.
Cette première fois-là, que je considère être ma première fois, j'étais assez stressé, c'était ma première relation d'adolescence, et donc j'étais stressé d'une part par l'intimité que ça pouvait avoir, et d'autre part par l'injonction que je pouvais avoir à assurer, dans le sens où, par les films pornographiques, on a l'impression que c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui contrôle. Et donc, j'avais cette vision du fait que j'allais diriger la sexualité et que donc, il ne fallait pas que je me loupe. On allait chez elle, on allait dans sa chambre et on a commencé à s'embrasser. Donc, on savait l'un et l'autre que ça allait partir là-dessus, quoi. Après, elle m'avait dit que, puisque je n'étais pas expérimenté, c'était elle qui allait gérer le truc, faire les mouvements, faire ces trucs-là. Dans un premier temps, je n'étais pas obligé de devoir faire les mouvements, de devoir choisir les positions. En tout cas, si ça me stressait, je pouvais juste m'allonger et la laisser faire, quoi. Donc on a commencé à se déshabiller, à se caresser. Ça m'a beaucoup étonné à quel point j'ai aimé et à quel point ça ne me lassait pas d'embrasser quelqu'un pendant des heures sans s'arrêter. J'adorais son corps, j'adorais le fait de l'embrasser, enfin vraiment partout. C'est pour ça qu'on passait des heures à s'embrasser sur la bouche, mais aussi s'embrasser n'importe où. Et au moment de la pénétration, j'ai été relativement stressé quand même par toutes ces injonctions que je pouvais avoir. Et donc je me suis mis à vomir. J'étais un peu honteux. Donc sur le moment, j'étais assez mal. J'ai peut-être passé 5-10 minutes à me dire, je savais que ça allait se passer comme ça, quelque part au fond de moi. En fait, ma vision, c'était vraiment, il fallait que je donne un orgasme. Donc la pénétration n'a pas pu se faire. On me demandait si on avait couché ensemble, si j'étais encore vierge. Donc ça, c'est mes potes qui me disaient ça. Et je savais pas trop quoi leur dire, parce que dans ma tête, une première fois, c'était une pénétration avec orgasme à la fin. Dans le doute, en fait, je répondais oui. Et donc, je voulais recoucher le plus vite ensemble pour ne pas devoir mentir sur une trop longue période. Et donc, 2 jours plus tard, en fait, on a couché ensemble. En fait, ça m'a pas tant marqué que ça. Il y a dû y avoir 2 heures de câlin, enfin, je sais pas combien de temps, mais une période assez longue. Et 1 minute de pénétration, finalement. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que là, je suis officiellement plus vierge. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été transcendé par l'expérience, parce que l'expérience était quasiment la même que celle d'avant. J'avais moins l'impression de vivre une nouveauté, quoi.
Voilà pour cet extrait, donc Les Pieds sur Terre. Le lien sera mis dans l'article de podcast de l'émission. Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités, donc série à retrouver sur France Culture. Mathias, 24 ans, donc se livre sur sa première fois. Et on voit bien, et c'est ce qui m'a intéressé dans cet extrait, que sa première fois n'est finalement pas sa première fois. En tout cas, la notion de première fois, elle est en train de glisser vers finalement la première expérience sexuelle autour d'un moment, en tout cas de cohésion, de baiser, etc., de moments charnels en fait, sans forcément la fameuse pénétration avec l'orgasme comme il le décrit. Ça, c'est quelque chose des discussions qui apparaissent aussi chez vous.
Moi, ça me renvoie à quelque chose, à des chiffres dans l'étude qui sont surprenants et qui sont expliqués par justement ce problème, pas ce problème, mais Juste un sujet dans toute cette discussion qu'on a entendue, ce monologue, c'est la définition de qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Et en fait, la définition, il n'y en a pas vraiment, quoi. Mmh. Parce que ça peut être coucher ensemble, nu dans un lit. Ça peut être caresser quelqu'un sous une table. Ça peut être une pénétration. Mais en fait, la définition est large. Et c'est en partie ça qui, selon les sociologues, là c'était pas noté dans l'étude, mais j'avais entendu il y a quelques jours une émission avec quelqu'un qui disait ça, c'est que pourquoi, on se pose souvent la question au niveau de la déclaration du nombre de partenaires dans une vie, pourquoi les femmes en déclarent 5 et les hommes en déclarent 16 mmh. Alors, est-ce que c'est vraiment parce que les hommes ont beaucoup plus de partenaires que les femmes ou est-ce que c'est qu'il y a d'autres raisons? Ou est-ce que c'est que les hommes gonflent les chiffres et les femmes les rabaissent? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas la même définition? Est-ce qu'un partenaire sexuel, c'est un partenaire, par exemple, avec lequel on a eu une seule relation, une fois dans un lit? Ou, pour pas mal de femmes, si vous leur demandez, ça sera quelqu'un, avec qui elles ont eu plusieurs relations.
Une relation plus durable, on va dire, effectivement, et donc ça rabaisse mécaniquement le chiffre. On a dû écouter la même émission.
Exactement, donc ça me rappelle exactement ça, ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que même lui, il est en train de se demander, est-ce que c'est vraiment une relation sexuelle que j'ai eue la première fois, ou ça compte pas parce qu'il n'y a pas eu pénétration. Et pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas besoin d'une pénétration pour une relation sexuelle, hein, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, mais en tout cas, par contre, partenaire sexuel, partenaire, pour certaines personnes, faut qu'il y ait une notion un peu de longueur. Quoi.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu donc, sur cette première fois? Il y a une tendance à un léger recul après une longue tendance à la baisse de l'âge moyen de première fois, de premier rapport sexuel. Elle était en 2006 pour les femmes de 17,4 ans et pour les hommes de 17,5 ans. On était à un moment où vraiment les âges se rejoignaient pour le premier rapport sexuel. En 2023, donc à la sortie de cette étude, il est de 18,2 ans pour les femmes et de 17,7 ans pour les femmes. Alors, pour les hommes, pardon, s'il n'a pas trop changé pour les hommes, il a beaucoup réévolué pour les femmes. Comment est vécu et formaliser cette entrée dans la vie sexuelle des gens qui viennent vous voir?
Côté médical, c'est formalisé. Souvent, c'est des femmes, encore une fois, qui viennent dans notre service. C'est formalisé. Souvent, c'est le moment, justement, où elles vont venir nous demander des dépistages, une contraception, surtout pour les mineurs, puisque nous, on s'occupe des mineurs pour le dépistage. Nous, côté médical, ça va plutôt être formalisé de manière assez neutre, hein, parce que on pose quelques questions, pour savoir si ça se passe bien, mais surtout au préalable, souvent elle voit les conseillères quand c'est des mineurs, et donc bien sûr je vais parler pour elle, mais c'est vrai qu'elle les questionne beaucoup, surtout pour savoir s'il n'y a pas de violence subie, de non-consentement, et y compris des violences ou non-consentement qui ne sont pas vécues comme telles, hein, par les patientes. Hein, on a pas mal d'exemples, c'est assez fréquent. Les dames qui ont vécu une agression sexuelle, voire même un viol, qui n'en ont pas du tout conscience, hein, pour elles. Et ça peut être même une histoire d'origine, parce que parfois, ça sera inentendable que c'est un viol. Parce que on avait l'exemple là, il y a quelques jours d'une dame qui est originaire d'un autre pays et qui est venue pour une IVG et qui disait à la conseillère « Non, mais moi, je ne voulais pas avoir de rapport. Hein. »« Ah bon ?»« Mais mon mari, il voulait. » Pour nous, c'est, si vous voulez, ça, hein, depuis 92, ça c'est un peu assimilable à un viol par conjoint en France. Hein. Mais pour cette dame, c'était pas entendable, c'est normal. Dans sa culture, elle, dans son éducation, c'était tout à fait cohérent.
On parle, Mathias, qu'on a entendu dans le reportage des Pieds sur Terre, parle des injonctions de cette culture masculine, voire masculiniste, presque dictée ou en tout cas éduquée par la pornographie. Ça aussi, vous le constatez, que la pornographie a largement infiltré l'imaginaire collectif en termes de pratiques sexuelles.
Alors moi, je me souviens d'un cas il n'y a pas si longtemps, d'un premier rapport sexuel, et donc exactement ce que vient de dire Mathias. Il voulait être au top.
Au top, quoi. Mmh. Voilà. Donner du plaisir, absolument.
Sauf que ça ne s'est pas passé si bien que ça. Mmh. Donc, voilà, c'est compliqué. L'accès aux images, aux films est ultra simple. Clairement, en France, hein, faut pas se... il y a juste à cliquer. Oui, je suis majeure et c'est bon, on y va. Donc, voilà. Ça, malheureusement, tant que rien ne sera fait sur les réseaux pour la protection ou... Et expliquer l'éducation, c'est expliquer aux jeunes, c'est pas ça le sexe, c'est pas ça l'amour, c'est ça, c'est un film, voilà, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe.
Comment vous voyez l'éducation à la sexualité dispensée dans les, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'y fait, est-ce que alors on considère qu'il y en a pas assez dans les écoles, les collèges et les lycées?
C'est compliqué, je trouve. Alors. Je reste sur la partie, nous on voit celles qui n'ont pas l'accès,
ouais,
souvent,
okay, hein, ouais.
Celles qui ont l'accès, mais on a des femmes...
On n'a pas besoin de venir vous voir, voilà, en gros, hein, pour schématiser un peu.
Des femmes ne savent pas mettre sur un schéma leur clitoris, clairement, elles ne savent pas, donc on en est là. Et au niveau de l'éducation, je trouve qu'il y a moins de choses qu'avant. Moi, je suis de la génération SIDA, hein, donc j'ai été bombardée tout mon collège et mon lycée sur la protection, sur les préservatifs. Hein, c'était tout le temps, c'était constant. Il y a beaucoup moins maintenant. C'est moins d'accès. Alors là, j'ai appris que le gouvernement l'éducation nationale voulait réintroduire dès la primaire. Des formations, des cours sur le consentement, sur... on a le droit, on n'a pas le droit, puis plus l'âge avance sur la sexualité, mais voilà, c'est...
Ça vous semble une bonne idée et
oui,
nécessaire?
Bah, étant maman d'enfants, oui, ça serait bien.
Je rebondis là-dessus.
Allez-y, Geoffrey.
C'est vrai qu'on en a entendu parler récemment, oui, apparemment le national fait que ça
pourrait bouger.
Il commence à avoir des instructions, même au niveau départemental. Et comme je vous disais au début, vu que nous, nos conseillères, elles ont un rôle à l'extérieur aussi en termes de formation, apparemment, ce rôle, il va être appuyé. Et chose qui peut paraître étonnante, hein, quand on ne sait pas ce qui se dégrade au niveau de l'éducation, on va dire éducation sexuelle, hein, même si c'est plus précis que ça, les enfants aujourd'hui ont des troubles éducatifs sur l'éducation sexuelle. Alors on parle à cet âge-là plutôt de l'intimité, les règles de vivre ensemble, quoi, à 3-4 ans, qu'on ne touche pas les parties intimes de quelqu'un d'autre, que personne ne doit toucher les siennes, que, voilà. Et ça, apparemment, ça a besoin d'être redit et perfectionné, mis
en forme auprès des publics, oui, même les plus jeunes.
Ouais.
Très bien. Je voulais qu'on parle avec vous et qu'on arrive sur la dernière partie de cette émission, le temps file, sur les grossesses non désirées, qui est un des paragraphes de cette étude. Elle serait un tiers des femmes. Alors, c'est à mettre en perspective, puisque dans les grossesses non désirées, on compte celles qui ne se posaient pas la question de savoir si elles souhaitaient tomber enceinte, celles qui le souhaitaient, mais plus tard, et celles qui ne le souhaitaient pas du tout. Mais ces trois items-là mis ensemble, on arrive à un tiers dans l'étude de grossesses non désirées, ce qui nous emmène naturellement vers aussi l'interruption volontaire de grossesse que donc, vous pratiquez au centre de CSS et à l'hôpital dans les hôpitaux du Loir-et-Cher. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, de ces grossesses, de ces personnes, de ces femmes qui arrivent avec un non-désir de grossesse?
Bah, là, sur le nombre que vous dites, vu qu'il y a pas mal de situations, bon, là, je pense que c'est plus un problème. Apparemment, c'est la même chose dans tous les pays, je dirais, européens, d'après ce qui était dit dans l'étude.
Ouais.
On voit que ça augmente, le taux de grossesse non désirée, et que c'est plutôt, bon, en général, c'est plutôt des conditions générales socio-économiques qui sont explicatives de ça. Et après, sur les IVG, bah, là, pareil, hein, surprend toutes les études là, des 15-20 dernières années. C'est ce qui surprend tous les gens. Quand on ne lit pas vraiment les explications sur le sujet, c'est que bah, comment ça se fait qu'on a de plus en plus de contraceptions différentes, performantes, mieux tolérées, et pourquoi on continue à avoir autant d'IVG? La réponse, c'est que c'est assez complexe, parce que De toute façon, il y en aura toujours potentiellement tant que les dames auront accès à l'IVG, parce que les contraceptions, elles sont pas parfaites. Mm-hmm. Parfois, nous, c'est ce qu'on voit aussi. Il y a des situations où les dames, elles voulaient être enceintes, sauf que entre-temps, il y a un changement de programme, il y a une rupture conjugale, une rupture sentimentale, il y a des changements très, très brutaux parfois. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y en aura toujours, malgré qu'on ait des contraceptions performantes et qu'on ait du choix. Et ça, c'est ce que, je dirais, la population générale parfois a du mal à comprendre dans ces chiffres qui stagnent. C'est pour ça qu'il y a un semblant d'explication générale sur ce que j'ai dit, mais après, nous, on pourra vous dire à peu près, pour que vous ayez une idée sur le département, combien on en a. Mmh. Mais il y a des grosses, d'ailleurs, disparités départementales.
Entre les trois centres hospitaliers qui le pratiquent.
Alors, pas forcément sur nos trois centres, mais à l'échelle de tous les départements
français.
Ouais.
Okay, pardon. Okay.
On a des grosses disparités, et ça dépend de plein de choses, mais ça dépend, oui, ça dépend de l'éducation, parce que forcément, les dames, ils n'en ont pas reparlé dans l'étude, mais un truc qui est constant depuis 20 ans, c'est que les IVG, de moins en moins de femmes en France vont en avoir une dans leur vie.
Ouais.
Par contre, celles qu'on aura une, elles auront de plus en plus.
Okay.
Voilà. Donc nous, les dames qu'on voit, même si on ne s'en rend pas toujours compte, majoritairement, c'est des dames qu'on a vues ou qu'on verra plusieurs fois. Voilà.
Okay.
Parce que c'est des dames de milieux socio-économiques parfois plus bas, statistiquement. C'est des dames qui ont moins d'éducation et qui sont moins éduquées aux différentes contraceptions. Et donc, forcément, depuis 20 ans, ça se vérifie à peu près comme ça.
On arrive sur la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui vous semblait importante à préciser?
Moi, pour revenir sur les... On reparlait des mineurs. C'est juste par rapport à notre service sur les contraceptions.
Ouais.
Parce que parfois, elles n'osent pas franchir parce qu'elles ont peur que papa, maman soient au courant. Donc, les mineurs, pas d'inquiétude. Pour tout ce qui est contraception ou IVG, papa, maman ne seront pas au courant. Nous, c'est pris en charge. Ça peut pas être anonyme, parce que pour des questions médicales, surtout sur une IVG, s'il y a une carte de groupe sanguin à faire, enfin voilà, c'est technique. Mais au niveau facturation, parce que les soins ne sont pas gratuits. Au niveau facturation, la sécurité sociale, la CPAM du Loir-et-Cher, nous a fourni des numéros de sécurité sociale qu'on appelle des NIR fictifs, qui nous permet de mettre ces jeunes, de les cacher, où ça sera pris en charge. Mais jamais il y aura de... On prendra leur papier, leur carte vitale mutuelle, souvent sont avec papa, maman. Voilà. Et qu'un mineur, de toute façon, une mineure qui veut faire une IVG, faut qu'elle ait un majeur référent. Donc ça peut être son petit ami, la copine de maman,
le
grand
frère,
la grande
sœur,
la mamie, souvent, plus que la maman.
Plus que la maman.
Ouais.
La mère du copain aussi.
La mère du copain, ouais.
Ça arrive souvent, ça.
Ça arrive très souvent, ouais. Donc, et parfois, quand on n'a pas d'autre solution, on a toujours le planning familial qui est là pour nous aider et qui peuvent être aussi majeur référent pour nos mineurs.
Que nous avons invité, mais pour des raisons de planning, qui n'a pas pu être là sur ce plateau également. L'occasion sera relancée de parler de tout ça.
Et moi, je repense à pareil, quelque chose d'assez pratique. Vous avez parlé tout à l'heure des préservatifs qui sont depuis peu remboursés pour les moins de 26 ans en accès libre. Mais il y avait aussi depuis 2018 déjà sous prescription les préservatifs qui étaient remboursés. Donc c'est sûr que ça facilite les choses. Mais en tout cas, cette chose-là déjà n'est pas connue de tous. Donc, et là, c'est sans limite d'âge. Hein. C'est jusqu'à 100 ans. Hein. Donc il n'y a pas de souci.
Et nous en avons dans notre salle d'attente en libre service.
En plus.
Eh bien, très bien. On n'a pas parlé d'un dernier marqueur que je trouve intéressant et qui va nous remettre sur une note un peu positive, peut-être, même si tout n'était pas négatif dans tout ce qu'on a dit dans cette émission, mais sur la diversité des pratiques. J'ai vu qu'il y avait un marqueur quand même d'une meilleure prise en compte du désir féminin, notamment, et d'une égalité dans le désir, puisque la masturbation féminine a fait un bond spectaculaire. Et je crois que c'est à noter et que c'est plutôt un bon signe. Elles étaient 42% à avouer ce masturbées en 92, elles étaient 56%. En 2006, elles sont désormais 73%. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et on boucle la boucle quand on parlait du plaisir et du consentement tout à l'heure.
Et de l'égalité aussi, dans, plus d'égalité dans les pratiques sexuelles et dans le plaisir. Ouais.
Dans les pratiques. Merci Geoffroy Lecas, chef de service donc, au Centre de santé sexuelle de Blois, et Élodie Davaillant, secrétaire du Centre de santé sexuelle. Merci à tous les deux. L'émission sera évidemment à retrouver en podcast sur le site de Studio Zef. On se quitte comme d'habitude avec le journal de bord d'un élu local. C'est l'épisode 128. À 18h, c'est la Rock Set List avec l'ami Christophe. On se quitte. Bonne fin de journée sur Studio Zef. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci, bonsoir.
Journal de bord d'un élu local. C'est l'épisode 128 avec notre invitée Cathy Savouret. C'est parti. Bonjour Nicolas.
Bonjour Gaël.
Nicolas, on est toujours aux journées d'été écolo à Tours.
Avec Cathy Savouret.
Avec Cathy Savouret. Cathy, bonjour Cathy.
Bonjour.
Tu es adjointe, au grand projet urbain, à l'urbanisme, au foncier et à l'espace public à Tours, à la mairie de Tours. Et on a fait un premier épisode qui était fascinant et qui finissait par une question de Nicolas que Nicolas va te répéter tout de suite.
Depuis quelques années, on essaie de pousser en interne pour aller vers mettre en œuvre une charte d'aménagement durable qui définisse des critères quand on monte un projet, par exemple pas accéder en voiture à certains lotissements, garder de l'espace pour la biodiversité, avoir un certain niveau de performance sur les logements qu'on construit, des chartes pour les aménageurs en fait, une charte de durabilité pour les aménageurs. Toi, tu as travaillé sur quelque chose d'assez similaire, j'aurais bien aimé que tu nous racontes ça.
Alors nous, on a travaillé au bout d'un an de mise en place. On a travaillé sur, non pas sur une charte, mais sur un référentiel.
D'accord.
Qu'on a appelé le référentiel de l'urbanisme écologique et solidaire.
C'est quoi la différence ?
Une charte, en fait, il faut être deux. C'est-à-dire qu'une charte, ça se signe. Et c'est des engagements que prennent la ville, par exemple, et un porteur de projet. Nous, on n'est pas passé par cette étape-là. Alors, peut-être que ça viendra. Mais ce qu'on a eu besoin, en fait... c'est plutôt d'écrire ce référentiel qui, en fait, traduit notre vision politique de la fabrique de la ville et nos engagements par rapport à ça. Et ce référentiel, on l'a présenté à l'ensemble de la profession, que ce soit les promoteurs, les architectes, la Fédération française du bâtiment, etc., etc. On a eu plus de 250 personnes qui ont suivi cette présentation. Donc, on l'a présentée avec monsieur le maire. C'était le Covid, donc on avait très peu de personnes en présentiel et le reste, on était en visio. Et on a expliqué à travers ce référentiel notre vision de la fabrique en disant à chacun, voilà, nous, on souhaite, on vous demande d'intégrer ce référentiel dans vos projets. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision, la fabrique de la ville, bah écoutez, il reste 35 000 communes à les construire ailleurs. Ce qui est une façon un peu cash de dire les choses.
Et ça a été bien accueilli ?
Bah ça a été bien accueilli parce que je pense que c'est important aussi pour les porteurs de projets de savoir clairement qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ça facilite leur travail. Un promoteur qui vient vous voir ou un architecte sur un projet, s'il sait clairement ce que vous attendez, après il peut ne pas être d'accord, mais au moins il sait dans quelle direction il doit travailler et ça leur évite de présenter des choses qui ne correspondent pas du tout et donc de perdre du temps et quelque part pour eux de perdre de l'argent parce qu'on vit quand même dans un milieu économique.
Est-ce que tu peux nous dire 2-3 points du référentiel qui te semblent saillants ?
Alors, on a le référentiel, c'est vraiment une vision globale de la ville. On l'a construit autour de 6 thématiques. Ce que l'on a appelé la ville des courts chemins, la ville qui respire et qui pour nous correspond à la ville santé, avec la question de la nature en ville, la question des mobilités par exemple, la perméabilité de la ville. La ville des courts chemins, ça correspond de se dire que dans chaque quartier, on doit pouvoir habiter, se loger, mais aussi se divertir, travailler, s'éduquer, faire du sport, respirer. Et ce, dans chaque quartier. Donc on n'a pas une vision de la ville, le centre-ville et le reste, mais la ville des quartiers. On a ce que l'on a appelé la ville bioclimatique, avec toutes les questions de logement traversant, d'orientation nord-sud, d'ensoleillement, de protection solaire. On travaille beaucoup sur la question de l'adaptabilité au changement climatique. On a un axe qui s'appelle la ville habitée, c'est-à-dire permettre à chaque habitant, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son niveau de revenu, son âge, de pouvoir se loger. Donc ça veut dire après décliner des projets.
Une mixité de bâti. Ouais.
Une mixité de bâti. On a aussi l'axe sur la ville de la démocratie permanente, ou comment on associe les habitants. Et si je reviens dans l'architecture et dans la ville bioclimatique, il y a toute la question de la ressource, en fait. Donc comment, à travers nos projets urbains et les constructions proposées, on peut travailler la question du réemploi. Réemploi autour de la déconstruction et non pas de la démolition. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le cas du quartier du Sanitas, quand il y a eu des démolitions de tours. On les a déconstruites et on a travaillé avec un organisme, un bureau d'études qui s'appelle Bellastop.
Donc la différence, c'est au lieu de tout casser et mettre à la benne, vous allez démonter les matériaux et les trier pour pouvoir les réutiliser.
Exactement, c'est-à-dire que Bellastop, qui a été l'assistant maîtrise d'ouvrage, a fait une analyse du bâtiment, mais élément par élément, pour voir quels étaient les éléments qui pouvaient être
réutilisés. Donc vous avez des endroits pour les stocker, parce qu'à un moment, le moment où on détruit le bâtiment, le moment où on en construit un autre, c'est pas nécessairement en face.
Mais par contre, ce travail-là, on l'a fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a eu une plateforme un peu virtuelle où, avant même de déconstruire, les gens savaient, avaient les quantitatifs. Et notamment, sur le Sanitas, on avait une tour construite en tuffeau. Mmh. On a récupéré les blocs de tuffeau. Ils ont été bien déconstruits.
Et vous avez déjà le client qui avait préacheté.
Et on avait déjà les clients. Notamment, on les a réutilisés dans la construction de nouveaux logements sociaux. Mais on a des promoteurs localement qui ont réutilisé ces pierres de tuffeau. Donc l'idée, c'est ça. C'est stocker, mais pas très longtemps. C'est-à-dire déjà savoir comment on va pouvoir réemployer en amont. Donc ça, on l'a fait. Le deuxième projet sur lequel je voudrais juste évoquer très rapidement, c'est avec notre bailleur social, l'Igéris. Il a réhabilité un bâtiment pour en faire une résidence étudiante, entre autres. Et cette résidence...
Où ça ? C'est dans quel
quartier ? Avenue de Grammont.
D'accord.
C'est l'ancienne poste. Et les 24 chambres ont été meublées avec du mobilier de réemploi. À partir des encombrants de la métropole de Tours, il y a eu une fabrique d'estime qui a été mise en place avec l'appui sous la houlette de RCP Design, Régine Charvet-Pello, son bureau d'études, qui a travaillé avec Tri 37. Et ils ont récupéré avec une designeuse ripeuse qui était au cul du camion, mais on peut le dire comme ça, quoi, tous les mardis, qui triait, qui récupérait du mobilier. Ça partait à 40 km d'ici, dans une commune rurale qui a gentiment accepté de mettre à disposition gratuite un entrepôt. Et à partir de là, les meubles étaient en insertion, réhabilités, démontés, redesignés. Et aujourd'hui, c'est 100 000 euros le budget. C'est le budget qu'avait l'Igéris pour acheter du mobilier. C'est le budget qu'il a donné à la fabrique d'estime. Et 200 meubles ont été faits. Aujourd'hui, elle ouvre en septembre avec... Chaque chambre est différente.
Ah oui,
et à partir des encombrants de la ville de Tours.
Yeah, c'est trop bien.
Yeah. Nous, sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, je sais que Cédric Marmuse, qui est notre adjoint sur la médiation culturelle, il a été aussi directeur d'une ressourcerie.
De bonne manière.
Voilà, donc la ressourcerie, elle stocke, elle va récupérer des matériaux et les revendre. Mais il nous expliquait bien que ce qui manquait, c'était ça. C'était aussi pouvoir récupérer des choses abîmées pour les remettre en état et les remettre sur le marché. Et une piste pourrait être Territoire zéro chômeur de longue durée, par exemple.
Voilà, on a Territoire zéro chômeur aussi à Tours depuis peu, hein, dans le quartier du Sanitas. Et donc là, maintenant, moi, j'amène tous les promoteurs qui ont des résidences étudiantes meublées, je les amène à la fabrique de l'estime en disant « Allez, passez des contrats ». Et on travaille avec Territoire Zéro Chômeur, on va appliquer ça aussi, dans le cadre d'un nouveau projet, Rive-Sud,
d'accord,
avec là le promoteur ICAD, où on travaille avec lui, puisque c'est un quartier qui jouxte le quartier d'habitat social Les Fontaines, et où on a souhaité mettre en place tout un dispositif avec toutes les entreprises, des notaires en passant par les entreprises qui vont construire, mais également les cabinets d'architectes, tous ceux qui œuvrent dans ce projet qui va s'étaler jusqu'en 2028-2029 pour avoir des stages de troisième, pour avoir des contrats d'apprentissage, pour avoir des aires d'insertion au bénéfice des habitants du quartier des Fontaines, pour que les nouvelles constructions ne soient pas vues que comme une diminution de leur cadre de vie, mais participent à l'amélioration de leur propre cadre de vie et de leur propre économie.
Donc finalement, toi, tu as une politique écologique sur le bâtiment pour utiliser moins de ressources, mais tu t'en sers pour avoir une politique sociale de réinsertion par des emplois qui ont du sens et en même temps qui permet d'avoir à chaque construction quelque chose de singulier qui n'existe que sur ce site-là et donc plus forte appropriation de bâtiments qui sont moins impersonnels, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est le dernier axe donc je vais illustrer là et que j'appelle la ville aimable. C'est-à-dire comment des nouvelles constructions permettent d'améliorer le déjà-là. Et quand je parle de déjà-là, c'est améliorer la vie des habitants déjà-là pour qu'avec les nouveaux habitants, ça se passe bien et qu'il y ait des liens qui s'opèrent. C'est le déjà-là, c'est-à-dire comment on améliore la vie des êtres vivants non humains, parce qu'on a une fâcheuse tendance à les oublier, ceux-là, mais ils habitent là, et donc comment on fait en sorte qu'ils vivent mieux et que leur vie ne soit pas dégradée par l'arrivée de nouvelles constructions, de nouveaux projets, et comment on tient compte du déjà-là en termes de paysages et de bâtiments existants pour que ces nouvelles constructions s'insèrent en harmonie dans leur environnement. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pour ou contre, par exemple, les immeubles de grande hauteur. Il y a des lieux, il y a des sites où mettre de la grande hauteur a toute sa raison d'être, et il y a des quartiers, il y a des îlots où ça serait complètement aberrant de le faire. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche contextualiste en se disant que tout projet ne doit pas être simplement du bâti, mais doit être porteur de projets, de sens, et qu'on doit arriver à tisser des liens.
Moi, ça me fait penser au projet sur les bords de Loire, tu sais, où on a travaillé avec Val de Loire UNESCO et et le pôle des arts urbains, qui est d'ailleurs sur votre territoire. Sur une promenade de Loire où on a travaillé avec les habitants sur ce qui manque sur cette promenade de Loire, leur ressenti pour pouvoir mieux la vivre, pour qu'elle soit plus aimable. Et ils nous ont parlé de besoin d'assises parce que c'est l'endroit où ils passent et ils ne s'arrêtent pas, le besoin de messages au sol pour parler de la Loire et qui pousse aussi les vélos à ralentir et les gens à plus être ensemble. Et puis avec ça, ça fait une sorte de commande publique où c'est nos étudiants des différentes écoles de la ville créative qui ont travaillé pour fabriquer ce mobilier avec du réemploi issu des bancs qu'on avait démontés dans nos villes par exemple, ou de mobilier qui protégeait à l'origine des lampadaires qui se sont retrouvés transformés en bancs, et dans les services techniques de notre ville. Donc en plus de ça, il y avait aussi du sens pour nos agents qui se retrouvaient à enseigner leur métier, leur savoir-faire manuel à des étudiants de différents quartiers au service d'un quartier où les habitants aient participé à construire la commande publique. Mais moi, ça m'a fallu beaucoup d'énergie pour un petit projet. Et ce que je trouve formidable dans ce que tu fais, c'est que toi, ça devient systémique. C'est dans tous les projets que c'est comme ça. Et ouais. Ça, c'est assez
extraordinaire. Et on imagine justement tout le travail que c'est à chaque fois. Quand tu racontais tout à l'heure, on imagine que c'est très pointueux. Ça demande du temps, ça demande du travail. Et en même temps, c'est admirable, quoi. Ça donne envie, vraiment.
Ça fait un projet qui va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre, j'imagine.
Mais forcément.
Ah ouais ?
Pas forcément, en fait. Ce qui est important, c'est de le travailler en transversalité. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à travailler avec l'adjoint au sport, à demander l'avis à l'adjoint à la culture, à aller voir l'adjointe à la biodiversité. C'est-à-dire que je ne conçois pas l'urbanisme comme ma seule délégation. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis en avant-projet, je reviens à l'épisode 1, mais quand je suis en avant-projet avec des promoteurs qu'on discute de la programmation logement, je la fais valider, après coup, par l'adjointe au logement. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrive. Parce que, comme ils sont habitués à nous voir travailler en transversalité, les services travaillent en transversalité. Mmh. Et tout le monde commence à travailler en transversalité. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver, parce que sinon, on se bat contre des moulins à vent, en fait.
Ouais, ça a été un de nos premiers épisodes de podcast. On a demandé des délégations transversales pour faire vivre de la transversalité entre les services, entre les gens. Après, parfois aussi, Il y a des envies d'avoir des chasses gardées de ma délégation, je fais ceci, cela, mais c'est vrai que plus tu fais projet par projet, tu vas mettre les délégations qui sont autour de la table, les services et les élus qui sont en délégation où il y a un sens autour de la table, autour d'un projet, mieux ça marche. Et voilà, c'est une belle leçon. En tout cas, tu montres que des choses formidables sont possibles.
On va devoir terminer, mes amis.
Merci.
Merci Cathy pour ce témoignage. On sent la passion dans ce que tu dis. Ouais. Et du coup, vraiment, c'était passionnant.
Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Et je compte bien continuer cette conversation en off avec certains d'entre vous. Et
bien sûr, on va se faire des petites visites de terrain maintenant.
Merci.
Bon. Au revoir, merci. Salut.
Salut.